Le journal est présenté par Thomas Schoner.
Bonjour à tous. Après le Bataclan, l'aéroport de Bruxelles ou encore l'hypercachère, la promenade des Anglais fait désormais partie des lieux qui resteront à jamais marqués par le terrorisme. Reportage à Nice dès le début de ce journal. Nice, où les forces de l'ordre s'interrogent sur les moyens mis à leur disposition. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Alain Juppé appelle ce matin les ministres à prendre leurs responsabilités. En Turquie, la purge a commencé. Près de 3000 soldats ont été arrêtés après le coup d'état manqué de vendredi soir. Un événement qui permet au président Recep Tayyip Erdogan de réaffirmer son autorité. Frédéric Carbone nous expliquera pourquoi la situation est suivie de très près aux États-Unis. Donald Trump, lui, a présenté ce week-end son colistier, celui qui fera campagne à ses côtés jusqu'à l'élection présidentielle. Mike Pence, un conservateur controversé, son portrait ce sera par Hélène Masquelier. À Nice, la promenade des Anglais a rouvert presque entièrement. Hier, seule une partie est encore inaccessible aux voitures. Depuis l'attentat de jeudi soir, des habitants, des touristes se sont rendus sur les lieux du drame pour rendre hommage aux victimes. 84 morts et plus de 200 blessés. Pour les Niçois, le lieu restera à jamais marqué par ce qu'il s'est passé. Le reportage à Nice de Xavier Demany.
À la mi-journée, une partie de la promenade était de nouveau accessible à la circulation. Seul le tronçon entre le boulevard Gambetta et le Méridien, là où le camion a terminé sa course folle jeudi soir, est encore bloqué pour les voitures. Philippe est venu avec ses enfants pour déposer des fleurs. Et selon lui, ce lieu mythique au bord de la mer, presque paradisiaque, est entaché pour toujours.
On est tous choqués, mais après comment on fait? On ne vit plus, c'est ça aussi le problème. C'est vrai qu'à chaud comme ça, ça fait même nous, on n'a pas trop envie d'aller se promener sur la promenade. Mais après, il faut continuer à vivre, hein. Sinon on reste isolé, on s'enferme tous à la maison, il n'y a plus de vie. Ça veut dire qu'ils ont gagné alors quelque part.
Ne pas se laisser abattre, c'est ce que l'on entend près du mémorial qui s'est installé spontanément. Mais aussi rouvrir la promenade parce que c'est un axe routier majeur de Nice. Mais pour Christian, ça va être difficile au début de revenir.
C'est sûr que quand on va passer en habitant la ville, on va y penser. Ce sera marqué, un truc comme ça, bon, on peut pas... 80 morts, ça va marquer. Bon, l'étranger qui va arriver à la limite... Bon, s'il le sait pas, mais nous, on est en histoire d'origine.
Un espace de recueillement a été créé sous le kiosque à musique à quelques mètres du bord de mer. Les bouquets déposés sur le terre-plein entre les deux voies de la promenade seront déplacés cette nuit pour laisser dès demain matin repasser les voitures.
Xavier Demany de France Bleu Azur. Du côté de l'enquête, 5 personnes sont toujours ce matin en garde à vue. La personnalité de Mohamed Lawayesh Boulel est au centre des investigations. Daesh, qui a revendiqué hier l'attentat, l'a reconnu comme l'un de ses soldats. Il semble que ce Tunisien de 31 ans se soit radicalisé très rapidement. C'est ce qu'a dit hier Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Manuel Valls lui tient à contre-attaquer après les critiques de la droite. « Je ne veux pas de polémique inutile », déclare le Premier ministre dans le journal du dimanche. Il cible ceux qui, je cite, « disent que cet attentat était évitable ». D'après Manuel Valls, les services de l'État et la ville de Nice avaient préparé ensemble ce 14 juillet, comme ils avaient préparé le carnaval de Nice ou encore l'Euro. Néanmoins, pour le syndicat de Police Alliance, les effectifs dédiés étaient très en deçà des besoins. À Nice, les précisions de Mathilde Dehimi.
C'est par le biais des caméras de vidéosurveillance que Jean-Michel Truglio a vu arriver le camion.
On a compris de suite, l'alerte a été donnée en moins de 20 secondes à la police nationale. 45 secondes plus tard, il était intercepté par les effectifs.
Le directeur de la police municipale donne l'alerte. Selon lui, ces 42 hommes déployés étaient en nombre suffisant.
Pour un soir comme ça, oui, parce que normalement, la police municipale est dédiée au point de circulation. Après, tout ce qui concerne l'ordre public, c'est la police nationale qui en a la charge.
La police nationale a vu ses équipements renforcés depuis novembre, du matériel neuf et performant, auquel n'a pas accès Émeric Drédemy de la police municipale niçoise.
On souhaiterait avoir la même dotation que la police nationale et la gendarmerie, notamment en matière de puissance de feu, pour pouvoir répondre face à des événements aussi dramatiques.
Il ne suffit pas de réfléchir sur les effectifs et le matériel. Il faut surtout revoir tout le dispositif de sécurisation des lieux festifs, dit Frédéric Lagache du syndicat Alliance.
Il faut revoir notre schéma tactique de service d'ordre, notamment pour ces manifestations festives et qu'on soit aidé par d'autres personnels, que ce soit de la réserve opérationnelle dans la police ou du personnel privé ou les deux à la fois.
Du personnel habilité à fouiller les spectateurs mais qui n'aurait rien pu faire contre un camion lancé dans la foule.
2800 soldats arrêtés, 2700 magistrats révoqués. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan reprend la main avec un gant de fer. Le putsch mené par une partie de l'armée a échoué. Hier soir, des milliers de personnes sont descendues crier leur joie dans les rues d'Istanbul. Une dérive autoritaire au sommet de l'État turc est-elle possible? Nabila Amel a posé la question à Élise Massikar. Elle est chargée de recherche au CNRS et spécialiste de la Turquie.
Aujourd'hui, c'est sûr que les rênes sont dans les mains du chef de l'État turc, mais beaucoup d'observateurs pensent qu'un tour de vis est probable pour concentrer les pouvoirs encore plus. On l'a vu par la purge, l'arrestation de pratiquement 3000 militaires impliqués dans la tentative de coup d'État, mais aussi au niveau de la justice, avec une purge quand même très massive, très rapide, hein, et qui touche également les hautes juridictions comme le Conseil d'État et la Cour d'appel. Donc ça indique une reprise en main plus large que celle simplement liée à l'initiative proprement dite. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle d'un changement de régime. Le président Recep Tayyip Erdogan, depuis plusieurs années, tente de mettre en place un régime présidentiel dans lequel il concentrerait les pouvoirs de manière constitutionnelle, on va dire. Mais il a beaucoup de mal à mettre en œuvre cette réforme parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire requise. Or là, il est parvenu dans une certaine mesure à se présenter un peu comme le sauveur, comme celui qui a défendu la démocratie contre le putsch militaire et a rassemblé en fait derrière lui de cette manière l'ensemble des partis politiques, y compris ceux qui étaient sur son chemin contre une réforme constitutionnelle. Donc il y a là une possibilité de créer un consensus. Après, il pourrait aussi, de ce point de vue-là, aller vers une politique plus consensuelle. Mais les quelques signes qu'on a pu observer au niveau des purges depuis hier ne semblent pas l'indiquer.
Élise Massikar du CNRS, elle répondait à Nabila Amel pour France Culture. Depuis vendredi soir, de nombreux pays ont réagi. La France, l'Union Européenne, tous réclament un retour à l'ordre constitutionnel. Les affrontements ont fait en Turquie 265 morts et près de 1500 blessés. Les avions américains stationnés près de la frontière syrienne sont cloués au sol depuis la tentative de putsch. Les événements en Turquie sont bien évidemment scrutés depuis les États-Unis. Les précisions à Washington de Frédéric Carbone.
Barack Obama est tenu au courant en permanence de la situation en Turquie et il a réuni son Conseil de sécurité nationale. Pour le président américain, l'équation est très complexe. La Turquie est un membre de l'OTAN et un partenaire essentiel dans la lutte contre Daesh, mais le président Erdogan reste un interlocuteur peu fiable et les États-Unis dénoncent régulièrement les atteintes aux droits de l'homme. Voilà pourquoi la ligne est celle du respect de l'état de droit. Les États-Unis ont donc condamné une tentative de coup d'État qui les a surpris, mais ils redoutent également une reprise en main brutale. Le régime turc a d'ailleurs déjà désigné l'ennemi, Fethullah Gulen, un autre responsable islamiste réfugié aux États-Unis, et accusé d'être à l'origine des troubles. Le président Erdogan réclame son extradition. Washington exige des preuves de son implication. Pour Barack Obama en tout cas, les divisions au sein de l'armée turque sont une très mauvaise nouvelle dans le contexte de la guerre contre les djihadistes et les États-Unis considèrent que la situation reste chaotique. Ils ont ainsi été les premiers à suspendre tous les vols commerciaux en direction de la Turquie.
Et vous pouvez retrouver tous les détails de ce coup d'État manqué en Turquie sur notre site franceculture.fr. Il est gouverneur de l'Indiana, populaire chez les conservateurs, beaucoup moins chez les modérés. Mike Pence va faire équipe avec Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Si Trump est élu, cela veut dire que Mike Pence sera son vice-président. Une nomination qui n'est pas du goût de tout le monde, Hélène Masquelier.
Mike Pence est un homme controversé, c'est certain. Cet ancien présentateur radio, originaire du Midwest, a grandi dans une famille catholique irlandaise pro-démocrate. Depuis, il a intégré les rangs républicains. Et en 2013, il devient gouverneur de l'État de l'Indiana. Récemment, le quinquagénaire s'illustre par le vote d'une loi contre l'avortement, parmi les plus restrictives du pays. Même certains de ses comparses républicains lui disent alors qu'il va trop loin. L'an passé, c'est à la communauté LGBT qu'il s'attaquait. Son idée, autoriser les commerces et les restaurants à refuser d'accueillir les homosexuels. La loi passe. Résultat, de nombreuses entreprises désertent l'Indiana. Mike Pence s'en sort fragilisé, mais reste soutenu tout de même par une frange très conservatrice des républicains et par les chrétiens évangéliques. Allié de taille donc pour rallier les grandes figures du parti républicain à la cause de Donald Trump. Mais quelques divergences subsistent entre les deux hommes. D'ailleurs, au début de la campagne, Mike Pence affichait son soutien à Ted Cruz, le sénateur texan, pour l'investiture républicaine. Mais la personnalité du gouverneur de l'Indiana fait plutôt bonne figure aux côtés du milliardaire impulsif. Il marche et parle comme ses hommes politiques professionnels. Sa désignation comme colistier pourrait donc donner une tournure plus apaisée à la convention républicaine de la semaine prochaine.
N'importe portrait signé Hélène Masquelier pour France Culture. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui au Rwanda, à Kigali. Un sommet qui devrait être largement consacré au Soudan du Sud après une flambée de violence la semaine dernière à Djouba. Votre météo pour ce dimanche, quelques nuages pourraient persister de la Normandie à l'Alsace. Partout ailleurs, c'est du grand soleil. Météo France annonce par ailleurs un épisode de forte chaleur à partir de demain et jusqu'à mardi, avec 35 degrés et plus dans les régions au sud de la Loire.